Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Chérie, tu peux vérifier que la petite ne joue pas avec la friteuse parce que là tout de suite je ne peux pas, j'Instagram mes derniers cupcakes sur mon compte. Pardon, mais moi aussi j'ai d'autres priorités là, j'auto-bats mon propre record sur Candy Crush. Résultat, la petite est rapidement transformée en frite face aux obligations de ses paternels. Voilà très grossièrement, avouons-le, ce qui semble se passer dans les foyers depuis l'apparition des smartphones selon une étude américaine relayée sur lemonde.fr. D'après ce rapport, le nombre d'accidents d'enfants de moins de 5 ans a augmenté de 10% dans les villes où la 3G a été déployée. Bien sûr, précise l'article, la corrélation n'implique pas de causalité. Pendant cette période, il y a aussi une hausse importante du taux de chômage, de la consommation de sushis et des mariages entre homosexuels sans qu'on ait proposé de lien entre ces hausses et les accidents impliquant des enfants. L'étude n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique et reste donc à prendre avec précaution, mais si elle était vérifiée, je soumets l'idée suivante. Que l'on confisque aux parents qui mènent leur enfant à l'hosto leur chargeur de batterie, histoire que le petit dernier n'ait pas à pâtir d'un selfie de ses parents pendant qu'il est dans son bain.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Dans une deuxième partie d'émission, vous entendrez Élise Vigier qui présente La République du Bonheur au quai de jeudi à samedi. Ce sera juste après la vigie de Pierre-Antoine et juste avant la chronique sexo d'Aminata. Mais d'abord...
Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison.
Nous nous retrouvons... pour cette conférence.
Un goût raffiné qui charme toujours les invités.
Qui est devenu un rendez-vous incontournable, un rite.
Welcome. Benvenuto. Willkommen.
Un rendez-vous incontournable, un rite ce soir pour la deuxième fois de cette saison. Et comme tous les mois, nous recevons les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers. J'ai nommé Laetitia Nardi pour Pise. Bonsoir.
Bonsoir.
Nina Burley pour Vegan,
bonsoir. Bonsoir.
Et Yannick Held pour Osnabrück, bonsoir.
Bonsoir.
On rappelle votre rôle pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents. Entretenir des relations entre vos cités respectives et Angers, vous êtes chargé de la communication et d'entretenir les échanges. En gros, c'est ça ?
Ouais.
Ouais.
Comme d'habitude, on va entamer cette discussion sur l'actualité dans vos pays respectifs. On va faire un petit tour de table et puis dans une deuxième partie d'interview, on causera femmes, sexisme, préjugés, violence, car ce mois-ci, on en a pas mal parlé dans le sous-marin et puis on continue avec vous pour savoir comment ça se passe dans vos pays. Voilà, en ce qui concerne l'actualité, on commence par qui ? Yannick ?
Oui, on peut.
On peut, allons-y alors.
Bon. Alors, mon thème, c'est la mort violente d'une étudiante turque en Allemagne. C'était le 15 novembre et elle a eu que 23 ans. Et dans un resto de McDo, elle a voulu simplement porter l'assistance à deux adolescents victimes d'une agression de trois hommes. Et alors, quand elles se sont définitivement débarrassées des individus, l'un d'eux l'attaque, la fille, et sur le parking de l'établissement. Et le garçon de 18 ans, armé d'une batte de baseball, il la frappe à la tête et la jeune fille perd l'équilibre et son crâne heurte le sol. Et puis elle était hospitalisée d'un état incommensurable et très, très critique. Et quelques jours après, elle est décédée car les parents ont décidé d'éteindre les machines. Et en fait, c'est un grand scandale car elle a voulu aider les filles qui étaient agressées par les hommes-là. Et puis elle a payé. Avec sa vie pour cet acte de courage. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, ou je dirais que tout le pays est vraiment choqué par cela. Et en fait, il y a une pétition où on peut signer pour qu'elle reçoit le prix le plus important qu'on peut recevoir en Allemagne, le Bundesverdienstkreuz.
L'ordre du mérite en français.
Oui, oui, c'est ça. Et,
je suis bilingue.
Et le président d'Allemagne, Joachim Gauck, il a écrit aussi une lettre à la famille, une lettre de condoléances, on dit ça, oui. Et dont ce thème est pas seulement en Allemagne, c'est déjà dans le monde entier, on discute partout. Et en plus, il y a aussi dans les réseaux sociaux, il existe le hashtag Touche Albariak. Et donc, on peut. Oui, c'est un grand truc, on parle partout.
Une jeune femme qui pourrait devenir un symbole.
Oui, absolument.
Voilà de quoi on parle en Allemagne ces jours-ci. Un sujet un peu pesant, un peu lourd, mais non moins important, Yannick.
Oui, très important.
Nina, je me tourne vers toi pour le sujet qui, que tu as retenu aujourd'hui pour parler de l'Angleterre, des Royaumes-Unis.
Alors, c'est un sujet un peu moins...
un peu moins tragique.
c'est au sujet de Ruth dans l'Angleterre. Alors, récemment, le gouvernement a investi beaucoup de fonds dans les Ruth en Angleterre pour améliorer la situation. En ce moment, il y a beaucoup de Ruth qui... il y a des problèmes, des embouteillages, des bouchons qui empêchent le business dans plusieurs régions de l'Angleterre. Alors, dans ma région, près de Manchester, il y a une grande autoroute, le M62. Et les matins, c'est vraiment terrible. Alors, il y a des gens qui veulent aller au travail, qui veulent faire le business, et c'est compliqué. Alors, on a déjà entendu parler du Smart Cities. Et maintenant, on a les Smart Lanes, qui sont les voies qui ont, ils ont un mécanisme numérique qui sait quand il y a trop de véhicules, il peut ouvrir le Smart Lane pour améliorer la situation, pour laisser les véhicules passer plus facilement. Alors, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont très, très heureux. Patty dit que ça va aider leur business. À Manchester, récemment, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup d'avancées. Alors, c'est le progrès. Mais aussi, il y a eux qui disent que bon, on a besoin de caution. Peut-être que ce n'est pas la solution parfaite. Bon, voilà. Et aussi, il y a un monument historique dans le sud-ouest d'Angleterre qui s'appelle Stonehenge. Et quand il passe là-bas, tout le monde, il arrête, il déroule un peu plus lentement pour voir le monument. Et maintenant, il veut engloutir la route dans un tunnel pour éviter les embouteillages. Alors, c'est un peu polémique.
C'est radical comme ceci.
Voilà, on est radical, les Anglais.
En Italie, Laetitia, l'actu est très chaude puisque ça date de ce matin.
Oui, alors l'actualité d'aujourd'hui en Italie concerne la mafia à Rome. Donc ce matin, la police municipale a effectué 37 arrestations d'hommes politiques qui font partie de l'administration régionale et communale de Rome, d'entrepreneurs aussi qui étaient liés aux des institutions publiques à Rome. Et donc, on l'accuse d'infiltration criminelle dans le politique, dans le public, et l'accuse de corruption dans les marchés de travaux publics. Donc, on a découvert, depuis des ans, il mène des enquêtes sur ce système de pots de vin qui s'échange entre institutions et réseaux mafieux. Et du coup, ce matin, il y a eu 37 arrestations. 8 personnes ont été assignées, ont reçu l'assignation à domicile. Et plus de une centaine de personnes sont actuellement enquêtées, dont l'ancien maire de Rome, Alemann. Donc c'est un grand scandale. C'est le nouveau scandale en Italie. On en a eu beaucoup liés à ces rapports entre mafia et État. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça dévoile.
Voilà un nouveau scandale en Italie, donc. Merci Laetitia. On va tout de suite écouter un morceau que tu as choisi d'ailleurs. Un morceau de Musica Nuda qui s'appelle Bocca di Rosa. Tu vas mieux le dire que moi.
Oui, alors c'est Bocca di Rosa, ça veut dire bouche de rose. C'est une chanson de Fabrizio De André, qui était un compositeur, chanteur italien très très important, un poète on va dire. Et Musica Nuda a repris cette chanson. Ça raconte l'histoire d'une prostituée qui arrive dans un petit village. Et on parle des réactions des femmes et des hommes de ce village à cette nouvelle figure. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è che l'amore lo fa per noi, anche se non sceglie per professione. Bocca di rosa non è l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza dare sul compito, a cuor libero di pure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso lì dal funesta delle cagnette, a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non prendono certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine incostituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare: quella schifosa gettò per gli enti più di cozzarsi alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Cuore tenero non da dato di cui siano colmi carabinieri. Ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma non esiste originale, non ha bisogno da congelare. Come una freccia dall'arco scoccava la veloce di bocca. Cai alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un mese era nostra emunzione. Il bene fibro della bellezza, lavora accanto in processione.
Caraco bavarois, c'est en substance le compliment pour le moins déplacé que le candidat libéral à la chancellerie allemande a lancé à une journaliste.
La prego, presidente, la prego.
Non mi preghi, ma io.
But he's now a GP. This is. Calm down, dear. Calm down. Listen to the doctor.
Voilà, vous avez entendu entre autres David Cameron et Silvio Berlusconi. Il y a une semaine, c'était la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Quelques jours auparavant, nous recevions dans le sous-marin Jimmy Charroux et Caroline Dyer pour parler des injures sexistes et homophobes. Et bien ce soir, nous allons évoquer la question du sexisme, des préjugés et des violences faites aux femmes avec les ambassadeurs qui sont dans le studio pour la deuxième fois cette saison. Laetitia, Nina et puis Yannick. Voilà, alors on vient de l'entendre donc par la bouche donc, de David Cameron et Berlusconi, des propos sexistes à l'égard de ministres, de sénatrices ou encore de journalistes, dont le premier exemple qui se passait en Allemagne. Est-ce que chacun peut peut-être expliquer d'abord comment ça se passe en termes de sexisme dans le milieu politique de son propre pays. Laetitia, si on commence par toi,
oui.
on peut par exemple donner cette anecdote. Début 2014, Beppe Grillo a posté sur sa page Facebook la phrase suivante: que se passerait-il si tu trouvais la Boldrini avec la Boldrini en voiture? Laura, oui. Boldrini, c'est la présidente de la Chambre des députés. Ouais. Ça a fait un gros scandale puisque ça a donné lieu à des propos sexistes. Vous sortez de l'ère Berlusconi et donc ça a fait des dégâts.
Qu'on pouvait prévoir dans un certain sens, parce que Grillo est un peu héritier de cette ère, on va dire. Lui aussi, même s'il veut casser avec cette ère précédente, il retombe dans ses préjugés sexistes et il joue avec une, euh, Enfin, c'est très naturel la façon dont il fait. C'est presque instinctive sa façon de prendre les femmes. C'est très facile de parler des femmes, de susciter des commentaires qui ramènent au viol, qui ramènent à la violence envers les femmes. Donc c'est ce qui s'est passé sur Facebook. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu où finalement la violence. On peut se cacher derrière l'anonymat pour exprimer sa violence et ses préjugés. Donc voilà, ça a été un exemple triste, on va dire, comme il y en a beaucoup.
Tu expliquais tout à l'heure, avant l'antenne, qu'il y avait des ministres aussi femmes qui elles-mêmes se sous-estimaient quelque part.
Oui, enfin, je sais pas si je pense que c'est surestime dans le sens où on entend dire ces ministres femmes qui se disent porteuses de fémininité, d'une façon féminine de faire de la politique, ce qui est très bien, et ce qui pourrait apporter vraiment des belles choses à la politique. Mais après, elles poursuivent leur discours en disant. Bah oui, ma féminité en politique, ça veut dire aller chez l'esthéticienne une fois par semaine, faire mes ongles, je vais chez le coiffeur. Donc ça, c'est démoralisant de voir des femmes qui représentent les femmes italiennes dire des choses pareilles.
Nina, en Angleterre, sur le plan politique, tu parlais tout à l'heure de Gordon Brown, un ancien Premier ministre dont on a entendu parler hier.
Oui, c'est ça. Alors, Gordon Brown, il est retraité depuis hier, en fait. Alors maintenant, les gens veulent analyser le profil de Gordon Brown et ils disent qu'une chose qui va souvenir de lui après, ça serait le fait qu'une fois, il était avec une femme et il a parlé avec une femme dans la rue, je pense. Et après, il était enregistré dans la voiture en disant qu'il était bigote. Alors, c'était après la conversation avec elle, mais tout le monde rend compte qu'il a dit ça. Alors, c'est un exemple assez populaire de sexisme dans des politiciens en Angleterre. Alors oui, il existe toujours les attitudes, on dit anciens, mais bon, c'est en train de changer aussi. On trouve qu'il y a plusieurs femmes dans le domaine politique. Il y a un peu le quota d'avoir 50% de femmes dans le cabinet. Et maintenant, c'est un peu la discrimination positive parce qu'on veut voir plusieurs femmes. Bon, je pense qu'ils ne sont pas très sous-estimés. Par contre, il y a Harriet Harman, qui est le vice-leader du gauche en Angleterre. Il a un profil assez important. Mais il y a beaucoup de politiciennes qui sont ciblées dans les journaux. Il y a plusieurs scandales qui impliquent les femmes aussi. Alors, ils sont traités de la même manière.
C'est l'égalité partout.
Oui.
Yannick, on a entendu tout à l'heure là, dans le son cette phrase qui avait été sortie par un candidat à la chancellerie qui disait « Vous pourriez remplir un caraco bavarois à une journaliste qui s'appelle Laura Himmelreich ». C'est comme ça qu'on prononce.
Oui, presque.
Merci, t'es gentil. Il s'en est suivi un tollé, une espèce de scandale qui a été alimenté notamment par un hashtag qui s'écrit « Aufschrei », qui veut dire « cri ». Quelque part.
Oui, c'est ça, oui. En fait, oui, il y avait cette interview entre Madame Himmelreich et Monsieur Brudale, ça c'est l'homme politique. Et pendant cette interview, il y avait ce scandale du sexisme, cette insulte, en fait. Et à la suite, après la publication de cet article-là, elle a fait le hashtag Aufschrei. Et c'était en début 2013. Et il y avait plus de 10 000 tweets en relation avec qui utilisait cet hashtag-là. Et ça a lancé beaucoup de débats, beaucoup de discussions dans la télévision, dans les médias, dans la presse, partout en Allemagne. Et on a parlé du harcèlement sexuel dans la vie quotidienne et au travail. Des femmes, et il y avait beaucoup de femmes qui ont dit oui, j'ai eu aussi des situations comme ça et machin. Et en fait, en été 2013, cette campagne avec le hashtag a reçu le Grimm Online Award. Ça, c'est un prix. Il y avait aussi Adi Schwarzer. En relation avec ça, Adi Schwarzer, c'est une féministe depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle a 20, je crois, 71 ans. Et elle se bat toujours et elle s'engage très, très fort pour les droits des femmes et pour l'émancipation, pour l'égalité des sexes et tout ça. Et en fait, quelques mois après la publication de cet article-là, elle a publié aussi un livre qui s'appelle « Es reicht gegen Sexismus im Beruf », ça veut dire « Ça suffit contre le sexisme au travail ». Et elle a fait aussi une campagne avec des stickers. Et on peut les coller partout, il y a « Ça suffit avec le sexisme » et tout ça, et elle était invitée dans plusieurs discussions et elle a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour informer les gens, pour faire attention sur ces choses-là.
Faire avancer un petit peu les choses.
Ouais.
En Angleterre, ça avance en tout cas en termes de préjugés. Par exemple, sur le domaine du sport, Nina.
Oui, sur le domaine du sport. Alors, le 23 novembre, il y avait le premier match de foot des femmes. Dans le stade Wembley Stadium, c'est le premier stade en Angleterre. Alors, c'était un moment assez historique pour le football en Angleterre, pour l'image des femmes et le sport. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Alors, c'était avec Allemagne. Allemagne a gagné. Mais quand même, c'était un avancement. Et en fait, on voit que, ils ont vendu 55 000 de billets pour le match. Et ils pensaient qu'il y aura environ 30 000 de personnes, des spectateurs, mais il y avait 55 000. Et on voit que le match des femmes, c'est moins cher. Aussi, il y a une ambiance plutôt familiale dans les matchs. Et on peut respecter plus le jeu des femmes qui est plus tactique, plus technique. Oui, voilà, je pense que c'est un bon développement.
Une avancée dans le sport, dans le domaine du sport, et aussi une avancée dans le domaine du travail.
Oui, aussi, on voit que maintenant, par exemple, dans les entreprises, dans les villes, dans les grandes villes, il y a beaucoup de femmes qui sont des chefs, qui sont des patrons, qui sont des responsables. Il n'y a pas de limite maintenant pour les femmes qui peuvent être bien, qui pourraient être moins bien. Ça dépend de ton perspective. Mais oui, il y avait 20 années, je pense, au commencement du mouvement de féminisme, il y avait beaucoup d'harcèlement. Dans le travail, mais maintenant c'est beaucoup mieux.
Laetitia, est-ce qu'on peut évoquer la situation en Italie et notamment sur le plan des législatifs, en fait, sur le plan des lois, oui. Puisqu'il y a quelques dates assez surprenantes que tu vas nous délivrer à présent.
Oui. Alors, je vais commencer par dire qu'en Italie, le vote pour les femmes était permis en 1945, donc. Jusque-là, on n'est pas trop étonnés. Ça, bon, c'est pas trop loin d'autres pays européens. Le divorce a été voté, la loi sur le divorce a été votée en 1974 et la loi sur l'avortement en 1978. Et jusqu'à. Enfin, ce qui est vraiment frappant dans le panorama, pour dire. Des lois des codes pénales italiens, c'est que jusqu'à 1996, le viol était, dans les codes pénales, une infraction à la moralité publique et non pas une infraction contre la personne. Et donc, ça remonte, enfin, c'est avant-hier pratiquement, si on regarde la ligne du temps, ça, c'est avant-hier. En 18 ans, on se retrouve aujourd'hui à avoir une loi contre le féminicide. L'Italie vient de signer une convention du Conseil de l'Europe.
La convention d'Istanbul.
Voilà, qui concerne justement la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc cette convention d'ampleur européenne soutient un plan national contre la violence faite aux femmes. Et voilà, on attend.
Il y a une autre date qui est quand même frappante, Laetitia, c'est celle de 1981.
Oui.
Auparavant, peux l'expliquer.
Le délit d'honneur. Jusqu'à 1981, en Italie, si un homme tuait sa sœur, sa fille ou sa femme pour une raison liée à l'honneur de la famille, il avait droit à une réduction de la peine et la peine pouvait aller de 3 à 7 ans. Qui est rien pour un meurtre, c'est incroyable. Mais c'était jusqu'à 1981. Donc le délit d'honneur a été aboli cette année-là.
Yannick, est-ce qu'on peut faire juste un clin d'œil au fait qu'il y a eu deux évolutions au fait de la vision du féminisme à l'Est et à l'Ouest,
oui.
Et qu'en fait les deux visions sont confrontées à la chute du mur?
Oui, oui. Au début, quand l'Allemagne était séparée dans l'Ouest et l'Est, il y avait, à cause du gouvernement politique qui était très... Il y avait un peu le communisme et chez nous, plutôt la démocratie, comme aujourd'hui, dans l'Est et dans l'Ouest. Et en fait, il y avait des développements du féminisme complètement différents. Et en fait, il y a, après la réunion... c'est les deux versions, je dirais comme ça, les deux versions du féminisme sont crachées ensemble et il y avait beaucoup de différences et c'était assez compliqué là. Et en plus, ça existe jusqu'à aujourd'hui, je crois, l'image, les femmes dans l'Ouest pensent que les femmes dans l'Est sont plutôt des marâtres et ils ne sont pas très chics, mais les femmes de l'Est pensent que les femmes de l'Ouest sont des femmes décadentes, ils ne veulent pas travailler et tout ça, car dans un gouvernement assez communiste, c'est plutôt comme ça que tout le monde travaille. Et dans l'Ouest, c'était plutôt comme ça que l'homme doit travailler et la femme s'occupe des enfants. Comme ça, il y avait beaucoup de différences. Mais en fait, aujourd'hui, c'est mieux.
Ça a évolué.
Oui, oui.
Un mot sur la ville d'Osnabrück d'où tu viens, oui. Où il y a un service dédié en fait, à cette égalité homme-femme.
Oui, il y a, Gleichstellungsbüro, ça veut dire un bureau ou un service qui s'occupe pour l'égalité des sexes. Et ils font beaucoup de projets, beaucoup de mesures pour améliorer la situation de l'égalité à Osnabrück. Et il y avait aussi une charte pour l'égalité entre les hommes et les femmes de l'Union européenne au niveau de la politique municipale. Et en fait, et ils ont fait beaucoup, ils ont créé beaucoup de mesures pour améliorer la situation à Saint-Bruc en relation avec cette charte-là. Et j'ai trouvé aussi un projet assez intéressant pour moi, car c'est une mesure en coopération avec les relations internationales à Osnabrück et cette service de l'égalité-là. Et ils veulent lancer un échange entre Osnabrück et les villes jumelles qui ont également signé le charte de l'Union européenne. Et comme ça, je crois que Angers a signé ça également. Et comme ça, on peut lancer un projet ensemble et ça, c'est parfait. Hein.
Ça va souder les villes jumelles.
Oui.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été dans le sous-marin ce soir, Laetitia, Nina et Yannick. On va
écouter le
choix de Nina, le choix musical de Nina, ça s'appelle The Bow Bow Bells, These Days. Pourquoi ce choix?
Alors c'est une chanson que je connais pas avant. C'est une chanson plutôt celtique, plutôt folk, et c'est au sujet d'une romance. Qui tombe à l'eau, mais après ils ont des bons souvenirs de la romance.
Écoutons ça donc. They had time on their hands, so they fell in love.
with the sea all around and the sky above. But the time came along when she had to move on. With a smile and a wave, the girl was gone. He stood there helpless, looking on, and wish he'd had a chance to say, these are the days to remember. These are the days of no regret. And if a lifetime should come between us, then promise me you won't forget. They met around the world from Paris to Rome, for the few short days they call it home. Under the moon she sang him a song, but the very next day she was gone, gone, gone. Often they stood with pain in their hearts, looking out to sea a thousand miles apart, clinging to the notion of the power of love. These are the days to remember. These are the days of no regret. And if a lifetime should come between us, then promise me you won't forget. To be with him, this was the letter that he never got. Without another word, the moment was lost. At the docks at Dover, they said goodbye, both of them knowing it was the last time. With a final longing look behind, the last thing that he saw was her beautiful smile. These are the days to remember. These are the days of no regret. And if a lifetime should come between us, then promise me these are the days to remember. These are the days of no regret. And if a lifetime should come between us, then promise me you won't forget. You won't forget. You won't forget. You won't forget.
Vous écoutez Radio Campus Angers, vous êtes dans le sous-marin, nous sommes mardi, il est 19h, allez, 34. C'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Nicolas Sarkozy a été élu dimanche dernier président de l'UMP avec 64,5% des voix des militants contre 29% pour Bruno Le Maire et 6% pour Hervé Mariton. Une victoire loin d'être écrasante pour celui qui avait, en 2004, gagné la présidence avec 85% des voix. Lors de sa dernière semaine de campagne, celui qui n'était alors que candidat avait fait une halte à Angers.
Mercredi 28 novembre 2014, Andar, à quelques kilomètres d'Angers, Nicolas Sarkozy profite d'un de ses derniers meetings de campagne avant le vote de la fin de la semaine. Il s'attaque pêle-mêle à Roselyne Bachelot, Pur Produit Local, aux 35 heures, à François Hollande et d'autres encore. Mais l'ancien président ne dira pas que des vérités sur cela. Premier extrait.
Quand le 6 mai 2012, M. François Hollande a eu besoin d'un soutien, il l'a trouvé avec Mme Le Pen, qui lui a fait la courte échelle pour gagner la France. Mme Le Pen est complice de la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Marine Le Pen a-t-elle vraiment aidé François Hollande ?
La version de Nicolas Sarkozy est plus que contestable. Au soir du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen, arrivée en troisième position avec 17,9% des bulletins, ne donne pas sa voix au candidat socialiste. La candidate frontiste annonce qu'elle va voter blanc, une annonce qui ne se suivra d'aucune consigne de vote. D'après un sondage Ipsos Logica, commandé par le journal Le Monde, les électeurs du Front National n'ont pas eu de comportement particulier au soir du second tour. Selon le quotidien du soir, c'est même Nicolas Sarkozy qui aurait bénéficié du report de voix le plus important, attirant 51% des voix de Marine Le Pen, François Hollande n'attirant que 14% des voix, le reste des électeurs s'étant abstenus ou ayant voté blanc. Comment, dans ces conditions, annoncer que le Front National est soutenu des socialistes ? Nicolas Sarkozy énonce donc une fausse vérité, pourtant bien utile pour tacler gauche et extrême droite en même temps. Une seconde fois dans la soirée, Nicolas Sarkozy se montrera assez imprécis. Cela concerne cette fois l'AME, l'aide médicale d'État, que l'ancien président de la République préfère appeler l'aide médicale d'urgence.
Après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai vu les propositions de Xavier Bertrand. Je pense, comme lui, qu'il va falloir supprimer l'aide médicale d'urgence, qui est passée en 2012 de 500 millions en 2012 à 800 millions en 2013. Alors, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'argent pour les familles, mais il y a de l'argent pour l'AME.
En quoi Nicolas Sarkozy se trompe-t-il ?
Alors, plus que de se tromper, c'est avant tout une imprécision qui fera tomber l'argumentaire de Nicolas Sarkozy. Le projet de loi de finances de 2014 rappelle l'évolution du coût de l'AME. En ce qui concerne l'AME de droit commun, c'est-à-dire pour les étrangers en situation irrégulière présents depuis au moins 3 mois sur le sol français, le coût en 2012 s'élevait à 581 millions d'euros, soit 80 millions quand même de plus que ce que Nicolas Sarkozy a annoncé la semaine dernière à Angers. Pire encore, en 2013, la même AME de droit commun s'élevait dans les prévisions à seulement 700 millions d'euros, soit plus de 100 millions de moins qu'annoncé par le candidat à la présidence de l'UMP. Dans les faits, ce sera 744 millions d'euros finalement, annoncé en juin à la ministre de la Santé et des Affaires Sociales Marisol Touraine. C'est toujours 50 millions de moins que ce que disait Nicolas Sarkozy.
Ce sera tout, Pierre-Antoine ?
Et pour ceux qui n'en ont pas eu assez, je conseille la lecture du Libération de vendredi dernier, qui dresse de son côté 17 mensonges de l'ancien chef de l'État lors de ses différents en meeting. Alors finalement, il a vraiment pas changé, Nicolas Sarkozy.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À partir de jeudi, la République du Bonheur se jouera au quai et ce jusqu'à samedi. Une mise en scène d'Élise Vigier et de Martial Di Fonzobo. Élise Vigier qui était au bout du fil avec Thomas cet après-midi.
Bonsoir Élise Vigier, vous êtes metteur en scène de la pièce Dans la République du Bonheur aux côtés de Martial Di Fonzobo. Vous présenterez cette pièce à partir de jeudi soir au Théâtre du Quai à Angers. Alors cette pièce, elle met en scène une famille qui est réunie autour d'une table pour le repas de Noël, qui discute et qui finalement se déchire. Alors je voulais vous demander, à 22 jours de Noël, est-ce que c'est forcément synonyme de galère pour vous ?
Alors je pense que Martin Krimp, l'auteur, le moment de Noël, évidemment, parce qu'il est symbolique, parce que tout le monde est réuni en famille à Noël, enfin la plupart, que aussi dans la pièce, donc il y a les grands-parents, les parents, deux jeunes filles dont une est enceinte, et donc évidemment il y a une allusion à l'être nouveau qui, en cette période de l'année, tombe tout à fait à propos. Et puisqu'il est question de qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant de Deb qui n'a pas de père, et qu'est-ce qu'on va faire finalement du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Donc en fait, je pense que c'est pas forcément synonyme de galère du tout, c'est plutôt une façon assez drôle et assez décalée de poser tout le monde autour de la table en fait, pour discuter, sous prétexte d'un repas de famille, mais finalement le sujet dont on va parler est un sujet plus de société en fait.
Alors vous évoquiez à l'instant Martin Crimp, qui est donc à l'origine de ce texte qui date de 2012. C'est un dramaturge britannique contemporain et la pièce s'intitule à l'origine In the Republic of Happiness. Comment est-ce que vous en êtes venu à découvrir cet artiste ? Est-ce qu'il a été impliqué dans vos travaux notamment ?
Alors en fait non, il est venu là nous voir une fois qu'on a joué au Cirque du Sens, donc la première au printemps dernier, enfin en juin dernier plus exactement, et puis là il est revenu à Chaillot voir notre travail, mais on ne le connaissait pas en fait. On était dans une période où on voulait changer d'auteur, parce qu'on avait fait un long cycle sur Raphaël Strigelbourg et on avait envie de changer, voilà. Et on lisait, et c'est l'Arche qui nous a fait lire ce texte, qui était inédit au moment où on l'a lu. Donc c'était vraiment une rencontre pour nous aussi avec l'écriture de Martin Klimp. Et une fois qu'on a lu ce texte, on a évidemment lu tout ce qui était publié de lui. Et on a notamment lu aussi une très belle pièce qui est assez intéressante aussi par rapport à la République du Bonheur, c'est « Atteinte à sa vie ». Ce qui est très intéressant dans son écriture, c'est qu'en fait, là, dans la République du Bonheur, il y a trois parties. La première partie est finalement assez classique, c'est un repas de famille, voilà, à Noël. Et quand même, il y a l'arrivée de l'oncle Bob qui d'un coup se met à dire finalement tout ce que peut-être les gens ont, l'inconscient ou ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on a pensé mais qu'on ne dit pas, enfin, en tous les cas qui prend une autre forme de parole et qui interrompt cette parole un peu qui ne se parle pas finalement du repas de Noël, et lui il prend la parole et il, en fait il est missionné par sa femme Madeleine qui lui a dit de dire quelque chose qu'elle ne peut pas dire elle-même. Donc il finit par dire beaucoup de choses en disant que c'est jamais lui qui le dit, c'est toujours Madeleine. Et en fait, cette première partie s'appelle l'action de la famille. Donc à la fin de cette première partie, voilà, la famille est détruite. Puis on arrive dans une deuxième partie qui est complètement une autre forme de théâtre, une forme de théâtre beaucoup plus contemporaine, expérimentale. C'est les cinq libertés fondamentales essentielles à l'individu, dont la première, par exemple, est la liberté d'écrire le scénario de sa propre vie, où il met en fait en scène, enfin, dans son écriture, nous, après, on a mis en scène aussi en faisant des choix, mais où il met en scène un groupe, il n'y a plus du tout de personnages, c'est des tirets, donc dans le texte, et ce groupe se définit comme libre. Voilà, et là, on arrive dans l'expérience du groupe, de l'individu, d'un sur-individualisme, mais évidemment, il met aussi en scène quand même les paradoxes ou les empêchements ou les questions que pose notre société actuelle néolibérale. Puis on retourne dans une troisième partie où on retrouve Bob et Madeleine, donc qui sont partis et qui sont arrivés dans un espèce de lieu qui serait peut-être le futur. Là, on n'est plus tout à fait dans le présent. On est dans un monde juste après nous, science-fiction, où voilà, le bonheur a coupé la parole, finalement, a coupé la parole à tout le monde.
Alors, en plus de ces trois parties qui donc résument en quelque sorte la pièce, il y a également des airs de comédie musicale, puisque la troupe sera accompagnée sur scène par trois musiciens, et il y a certains comédiens qui sont chanteurs. Alors, je voulais savoir, dans quelle mesure est-ce qu'ils interviennent sur scène? Est-ce qu'ils jouent tout le long de la pièce, ou est-ce que c'est découpé?
Alors exactement, c'est ça qui est assez génial dans cette pièce, c'est qu'en même temps que de décrire quand même un état du monde qui pose vraiment question et qui n'est pas forcément très heureux, on va dire, justement, qui est plutôt comme dans un dictat de bonheur, il met quand même ça dans le texte original, il y a des chansons à la fin des cinq libertés essentielles de l'individu, à chaque fin de liberté, il y a une chanson qui peut être mise en musique comme on veut. Et donc nous, on a demandé à Étienne Bonhomme, Baptiste Guesmer et Antoine Cogut de mettre en musique ces chansons. Et donc ils sont là avec nous sur scène toute la pièce. Après, ils ne sont pas visibles tout le temps, ils sont visibles vraiment dans la deuxième partie, puisque aussi il est question de tout ce qu'on a dans la tête, donc des tubes qui passent dans nos têtes, des chansons qu'on a dans nos têtes, du bruit du monde aussi, voilà. Et ça donne quand même, en effet, aussi une énergie au spectacle et une chose très vitale et joyeuse qui est amenée par la musique aussi.
Alors, la description de la pièce dit que l'œuvre devient chorale pour décaper au mieux la complexité des relations humaines. Est-ce que la musique, c'est une légèreté qui est volontaire, qui est au profit du message, pour que ce soit donc moins violent, en quelque sorte, aux yeux du public, parce que c'est des messages qui ont une portée assez dure par moment?
En tous les cas, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense que la musique apporte une dimension vivante, enfin une dimension du vivant même, de quelque chose qui n'est pas atteignable finalement, qui n'est pas atteignable par la société de consommation, par la publicité, par la récupération néolibérale de tout, de la parole notamment, et que la musique reste quand même un espace qui est... comme le corps humain d'ailleurs aussi, une chose quand même qui comment dire, l'âme, bon, je sais pas si on, c'est pas forcément le bon mot, et ça n'a aucune connotation religieuse hein, dans mes propos, mais je veux dire, il y a quelque chose de, voilà, que la musique comporte et qui est de l'ordre du vivant. Donc de la joie aussi, enfin, d'une chose possible, d'une chose qui peut se mettre en mouvement, qui peut être, qui peut bouger, qui peut changer.
Alors donc on a évoqué la joie, cette histoire de comédie musicale. Est-ce que ça veut dire que le spectacle s'adresse à tous les âges? Est-ce qu'on peut y assister en étant adolescent et...
En étant adolescent, bien sûr, au contraire, je pense que c'est même intéressant, je pense, parce que les adolescents sont évidemment ceux qui vont faire le monde de demain. Non, je pense qu'un adolescent, c'est super. Et les enfants, peut-être, avant 10 ans, c'est un peu plus complexe, parce que même si dans la forme, je pense qu'il y a plein de choses à prendre et ils peuvent tout à fait y trouver leur compte. Après, dans le fond, il y a quand même des choses qui sont dites et qui sont assez violentes.
Vous faites également partie du Théâtre des Lucioles, un collectif d'acteurs théâtraux qui existe depuis 19 ans bientôt. Alors, c'est un projet que vous avez participé à créer. Et c'était dans quel but initialement, ce collectif?
Alors, au départ, on s'est dit qu'on avait envie de déjà de continuer à travailler ensemble. Donc, on sortait de l'école du Théâtre National de Bretagne il y a 19 ans. Et aussi, on avait envie, je pense, vraiment de travailler en collectif, c'est-à-dire de se dire qu'on pouvait se déplacer, bouger à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire être parfois acteur pour l'un d'entre nous, être parfois metteur en scène pour les autres, que les choses ne soient pas fixes et fixées. Donc, on a réussi notre coup, donc ça veut dire, voilà, on a réussi à créer ce collectif où il y a de plus en plus de metteurs en scène. Par exemple, là, dans le spectacle, il y a Pierre Maillet, qui serait avec l'Olivier, qui joue, qui n'ont pas mis en scène avec Martial, Dissonzobo et moi, mais qui font des mises en scène eux aussi, à côté, pour les Lucioles, d'autres textes. Moi, par exemple, je mets en scène avec Frédéric Lollier, Leslie Kaplan, on joue toutes les deux. Pierre, là, va mettre en scène Paul Morisset. Enfin, il l'a déjà mis en scène, il a mis en scène la deuxième partie de Paul Morisset, Flèche, Trash, Hit, Little Joe, avec donc nous qui jouons dedans. Voilà, les choses se déplacent, en fait. Je pense que c'était ça, l'idée. L'idée, c'était de pouvoir avoir quelque chose de collectif et de non fermé, non définitif.
Vous avez également réalisé un moyen-métrage qui a été sélectionné au Festival de Brest et qui a bénéficié du prix du jury à l'UNEL et du prix de qualité au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Est-ce que vous avez des projets dans le cinéma à moyen terme ou voire à long terme?
Alors, j'ai des projets. Après, là, j'avais une histoire de long-métrage. Un long-métrage est très long à monter, donc surtout quand on ne vient pas... Enfin, voilà, quand on fait du théâtre et pas du cinéma. Parce que les choses sont quand même assez clivées en France, quand même. Il reste des catégories. Donc moi, j'avais un scénario de long métrage, mais que je pense que finalement, je ne vais pas faire au bout de 6 ans. Je vais peut-être en faire un autre. Martial vient de faire un film démo, une adaptation d'une pièce de Lars Noren. Voilà, moi, je laisse ouvert la possibilité. Là, j'ai pas recommencé à écrire une autre histoire, mais ça m'intéresse, oui.
Je rappelle que la représentation dans la République du Bonheur aura lieu jeudi 4 et vendredi 5 à partir de 20h30, ainsi que samedi 6 décembre à partir de 18h. Ça se déroule au Théâtre du Quai à Angers. Merci Élise Vigier d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Merci beaucoup.
Thomas qui était donc au téléphone avec Élise Vigier. Et à présent, on va écouter le choix musical de Yannick. Alors ça s'appelle... Do They Know It's Christmas?
Ce sont des célèbres comme les Enfoirés qui font une chanson de Noël en Allemagne, en allemand, et pour collecter de l'argent pour l'Ebola.
Merci.
De rien. Egal ob es regnet oder schneit, treffen uns am Glühweinstand. Wir vergessen unsere Nächsten nicht, kaufen mal die Läden leer, die ganze Stadt versinkt.
sechs Stunden weiter. Ärzte Schmerzen ohne Grenzen. Kleine Jungs in Barcelona-Shirts malen ihre Träume an die Wände. Es gibt so viel Zukunft, so viel Vielfalt in allen 54 Ländern. Doch immer nur dieselben Bilder, gelbe Schutzanzüge auf all den Sendern.
Du gehst durch den Dezember mit einem Lied im Ohr.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on est mardi, on retrouve la chronique sexo. La chronique sexo, eh bien, d'Aminata. Salut Aminata.
Salut Tiffaine.
Et aujourd'hui, on parle des poils.
Madonna exhibe son aisselle velue sur son compte Instagram et Kate Moss dans le magazine Lui. La marque américaine apparaît et expose dans sa vitrine new-yorkaise des mannequins avec d'énormes, longs et épais poils pubiens. Il repousse les codes de la pilosité, mais dans quel but ?
Il faut faire un rappel de l'histoire pour comprendre l'évolution de la pilosité chez les femmes.
La pilosité varie en fonction des époques, bien sûr, mais aussi des cultures. Le Huffington Post précise dans son article « Pourquoi a-t-on déclaré la guerre aux poils ?» qu'au moment de la Renaissance, vers le 19e siècle, les poils étaient considérés comme un symbole de sensualité pour les femmes. Dans la tradition musulmane, les femmes s'épilent intégralement. Dans ce cas, ce n'est pas un effet de mode, mais un réel élément culturel. Aujourd'hui, le poil est presque devenu hors norme. De nombreuses formes de sous-vêtements, comme les culottes échancrées, les strings ou encore les tangas, nous empêchent d'être poilus.
Alors, assistons-nous à un retour du poil ou et quel est le rôle du poil dans la sexualité ?
La pilosité représente la puberté, le passage de l'adolescence à la femme qui est sexuellement mature. Pour Sandra Lorenzo dans le Huffington Post, la femme sans poil est devenue un enfant, aux positions de faiblesse. La femme épilée intégralement accentuerait donc la soumission. L'évolution des pratiques épilatoires est notamment liée à la pornographie. Les femmes sont toutes ou presque épilées intégralement pour mieux voir les détails lors de la pénétration. C'est également plus agréable pour les pratiques buccales comme la fellation. Une étude IFOP qui s'appelle « Enquête sur l'impact de la pornographie dans le rapport au corps des Français » parue en 2014 montre à travers un sondage qu'une femme sur deux de moins de 25 ans aurait recours à l'épilation intégrale.
Un vent de révolte du poil.
Lors d'une interview réalisée par le Figaro Madame, l'historienne Marie-France Osépi voit le retour du poil comme une forme de révolte qui peut nous faire penser notamment à la période hippie en France, signe de liberté. Elle nous dit « On assiste plus à une forme de provocation qu'à un basculement vers de nouveaux critères de beauté ». Elle n'a sûrement pas tort car plusieurs groupes et actes de révolte voient le jour. La blogueuse américaine Destiny a lancé la mode de « Écoutez-moi bien. Colorez les poils des aisselles avec des couleurs très flashy, comme du rose, du jaune ou du bleu. Le but de cette action n'est pas esthétique mais militant. La jeune fille de 17 ans veut bousculer le stéréotype de la femme du XXe siècle, fine et imberbe. Elle dit dans un article de Huffington Post « Rendre ses poils aussi visibles devient un acte militant. Tous les jours, nous sommes exposés au même modèle de la femme, glabre et d'Ulysse. » L'association Miel, mouvement international pour une écologie libidinale, est aussi de la partie. Ces femmes luttent pour revaloriser la pilosité naturelle. Selon elles, l'épilation est une souffrance et un comportement de soumission à une norme sociale. Dans leur blog, elles disent « La mode de l'épilation a pour but de faire du bénéfice sur le dos des femmes. La marchandisation du corps est bien une des dimensions de l'idéologie capitaliste libérale. En attendant de nouvelles modes, poilement vôtre !»
Merci Aminata.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Pour la perme de ce soir, c'est L'Enfer de Claude Chabrol au cinéma Les 400 coups dans le cadre de la manifestation L'Enfer intérieur de Ciné Légende, le tout présenté par l'inénarrable Louis Mathieu. Hop, c'est à 20h15. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Vendredi, dans l'Artichaut, Anissa revenait sur la performance Rap & Philo menée par Francis Métivier au Chabada, mercredi dernier.
Au Chabada, le mercredi 26 novembre, Francis Métivier, qui a publié l'ouvrage Rap & Philo cette année, proposait en effet une réflexion sur la question du temps dans la philosophie. Ses outils, des citations extraites de sources aussi éclectiques que des morceaux de la section d'assaut, des égotripes de Roff ou des fables platoniciennes. L'occasion d'apprendre que c'est la volonté de puissance telle que la définit Nietzsche qui animerait Roff lorsqu'il annonce vouloir réveiller le rap français à coups de marteau, ou que l'obsession de Booba pour le turfu rejoint les théories de Heidegger sur la temporalité de l'être. Si le parti pris peut sembler franchement improbable, vaguement malicieux, Francis Métivier parvient à en faire un travail pertinent, illustrant ses propos de thèse solide, car l'homme est professeur en philosophie, tout en rapportant avec nonchalance les vantardises de Booba, quitte à provoquer quelques ricanements. Rencontrer le mot « biatch » au beau milieu d'une référence à Socrate constitue indéniablement une expérience troublante. Et parce que, enrichi de nouveaux savoirs, il m'est désormais possible de le faire, je vous laisse méditer sur la phrase suivante. Le savoir est une arme, je suis calibrée, donc je suis pas teubée.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, 20h, vous retrouvez Ta Gueule Coubertin. Salut Valentin.
Bonsoir Tiffaine.
De quoi ça cause dans le poste ce soir ?
On va parler sport automobile, Jeux Olympiques et surtout en fin d'émission, le boule de fort.
Programme qui fait rêver.
Ouais, surtout, j'espère que tu écouteras.
Bien sûr, dès 20h, nous on se retrouve demain à 19h. Le sous-marin évoquera le festival de la création universitaire. Merci à Pierre-Antoine et à Aminata, merci à Thomas qui a co-préparé cette émission et à David et Antoine pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.